8h20 sur France Culture.
Les matins de France Culture. Guillaume Herner.
Le terroriste Mohamed Merah reprenait la phrase attribuée à Oussama Ben Laden « Nous aimons la mort, vous aimez la vie ». La mort du terroriste n'est pas une possibilité ou une conséquence malheureuse de son action, elle est au cœur de son projet, nous dit notre invité de ce matin, Olivier Roy, avec une explication, une thèse pour tenter de comprendre ces terroristes, non pas la radicalisation de l'islam, mais l'islamisation de la radicalité. Mais alors, Olivier Roy, si l'on vous suit et si l'on souhaite comprendre quelles armes nous pourrions utiliser pour lutter contre ces terroristes, est-ce qu'il va falloir leur donner en quelque sorte une radicalité de substitution ?
On pourrait toujours ressusciter l'extrême gauche avec laquelle nous sommes beaucoup plus familiers en termes de culture partagée. Mais je crois que l'extrême gauche s'est maintenant complètement provincialisée dans les petits conflits territoriaux locaux, comme Notre-Dame-des-Landes, etc. Non, il n'y a pas de substitution à la radicalisation individuelle de ces jeunes-là. Et on n'empêchera jamais un jeune de basculer dans une forme de radicalisation ou de violence. Il y a une espèce de boîte noire individuelle sur lequel on n'a pas vraiment d'impact. Et c'est pas les programmes de déradicalisation qui vont changer ça. Par contre, l'enjeu, c'est que ces radicaux ne s'articulent pas sur des mouvements sociaux. Hein, c'est-à-dire qu'ils n'entraînent pas avec eux une partie, pas forcément de la population musulmane d'ailleurs, mais de tous les révoltés, qui ne deviennent pas, dans le fond, la nouvelle forme de contestation à un moment où toutes les formes, disons, politiques sont déconsidérées dans l'opinion.
Cette crainte, celle que vous venez de formuler, est en filigrane, en quelque sorte, dans le discours de Nicolas Sarkozy.
La dernière étude d'une fondation privée est extrêmement préoccupante de ce point de vue-là, l'Institut Montaigne, qui montre quoi ? Qu'un quart des plus jeunes musulmans qui sont tentés par une certaine forme de radicalité...
29% estiment que la loi islamique, la charia, est plus importante que la loi de la République.
Ce qui veut donc dire qu'il n'y a aucune hystérie là-dedans. Ça veut dire quoi, Thomas Soto ? C'est que les problèmes sont devant nous, pas derrière nous. Alors on peut faire comme le singe de la fable, on se bouche les oreilles, on se bouche le nez, on se bouche les yeux. La réalité, elle est là. L'intégration républicaine n'a pas fonctionné, ne fonctionne pas, il faut passer à l'assimilation. On peut pas garder 29% d'une communauté qui se trouve tentée par la charia.
Nicolas Sarkozy, interrogé sur Europe 1 le 26 septembre dernier, ce sondage, on l'avait beaucoup commenté ici même, dans les matins de France Culture, on avait dit quelles étaient ses limites, on avait dit aussi à quel point ce chiffre de 29% de musulmans radicalisés en France, lâché avec ce terme brut, puisque je vois faire la grimace Olivier Roy, évidemment il faut s'entendre sur ce que l'on veut dire par radicalisé, mais enfin en tout cas, on entend dans le discours de Nicolas Sarkozy qu'il y a, en quelque sorte, un réservoir jusqu'à 29% de musulmans qui auraient un caractère de dangerosité. Expliquez-nous pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ce constat.
Parce qu'on confond deux choses, ce qu'on appelle la radicalisation religieuse et la radicalisation terroriste. On peut être un radical religieux, c'est-à-dire radicalement religieux, sans être violent politiquement. Le pape est le premier à dire que la loi de Dieu est supérieure à la loi des hommes. Simplement, ce qu'on attend, c'est une deuxième phrase qui consisterait à dire, quand vous êtes dans la société, vous respectez les lois de la société. Or, on n'a pas posé cette question-là aux 28% en question. Le problème, c'est que en France, on estime que être un croyant modéré, ça veut dire être modérément croyant. On n'arrive pas en France à intégrer le religieux, à intégrer la foi. On le voit bien avec la Manif pour tous aussi. Aussi, les gens de la Manif pour tous pensent que la loi de Dieu est supérieure à la loi des hommes. Ils le disent constamment dans la rue. Bon, est-ce que ça en fait des dissidents, des révoltés, des radicaux ? Pas forcément. Il n'y a pas de religion modérée. Quand vous êtes dans une religion, vous êtes dans une forme de radicalité, qui est la radicalité de la transcendance. Ce qu'on demande aux croyants, c'est pas d'être modérément religieux. Ce qu'on lui demande, c'est d'accepter les lois de la société et de trouver, dans le fond, une forme de compromis entre sa foi et la société dans laquelle il est. Or, on est des sociétés extrêmement sécularisées, ce qui rend la position du croyant beaucoup plus difficile.
Alors, admettons qu'il n'y ait pas de religion modérée, est-ce que ça ne serait pas le rôle de la religion, en l'occurrence de l'islam, puisque on parle de ces terroristes qui se réclament de l'islam, est-ce que ça ne serait pas le rôle de l'islam, que risque de modérer les croyants, de modérer les religieux en créant des instances, des discours, en créant en quelque sorte les conditions de la non-radicalisation terroriste de ses membres.
Tout à fait. Le problème, c'est de saturer l'espace religieux islamique par un discours qui soit un discours acceptable, un discours de, disons, de compromis. On apprend aux croyants à vivre dans une société qui n'est pas croyante, qui est profondément sécularisée. Seulement, le problème, c'est que ce qu'on fait en France, c'est l'inverse. Au lieu de faire de la place à un religieux qui aurait fait son contrat avec la société civile, comme l'Église catholique l'a fait avec plus ou moins de douleur, mais a fini par le faire, on expulse le religieux de l'espace public. Chaque fois qu'on voit quelque chose qui pourrait faire penser à un signe religieux, on l'expulse. Alors que ça soit le voile, que ça soit le halal, que ça soit le burkini ou tout ce que vous voulez, on ne veut plus voir de religieux. Et en ne voulant plus voir de religieux, on le laisse aux mains des radicaux. Et ce que je dis là vaut pour toutes les religions, aussi bien pour le christianisme que le judaïsme. C'est pas simplement une question de prévention du terrorisme, c'est tout simplement repenser la place du religieux dans une société qui est névrotiquement anti-religieuse comme l'est la France aujourd'hui.
Alors ça, c'est une autre partie de votre thèse, celle que vous exposez dans le djihad et la mort. Vous considérez, Olivier Roy, que s'il y a tant de terroristes francophones, qu'ils soient français ou belges, c'est tout simplement parce que finalement la francophonie porte en quelque sorte une caractéristique qui est celle du refus du religieux ou de son incapacité à composer avec la religion. Expliquez-nous.
On constate, et ça c'est vrai, quoi, qu'il y a une surreprésentation des jeunes issus des espaces francophones, et j'inclus le Maghreb bien sûr là-dedans, dans le radicalisme djihadique. Ça pose un problème. On n'a pas de Turcs, par exemple, ou pratiquement pas de Turcs. Comment ça se fait? Et moi, ma thèse, c'est que cet espace de francophonie, donc qui va du Maghreb jusqu'en Belgique, c'est là où on a le maximum de déculturation du religieux. Pour des raisons aussi qui sont parfaitement linguistiques, hein, comme on voit bien le Maghreb entre trois langues, l'arabe local, et puis le berbère bien sûr, l'arabe classique ou moderne et le français. Et on a en France une exigence d'assimilation, justement. On accepte les immigrés beaucoup plus facilement que dans d'autres pays, mais on exige que leurs enfants soient assimilés. Et ils s'assimilent, par exemple, au point de vue linguistique, au point de vue culture des jeunes. On a une société beaucoup plus mélangée que ne l'est la Hollande ou l'Angleterre, par exemple. Simplement, ça a un prix. Et ce prix, c'est qu'il n'y a plus la transmission d'un islam intégré dans une culture. Donc le problème, c'est de réintégrer l'islam dans une culture de type française. Or, on est une culture profondément anti-religieuse. Et c'est ça le problème. Je crois qu'il faut arrêter. La laïcité ne remplacera jamais la religion. La laïcité n'est pas une spiritualité. Elle ne pose pas de transcendance. C'est un système de normes, la laïcité. Et quand on dit aux enfants dans les collèges de banlieue, la laïcité, c'est l'égalité et la tolérance, bon, ça fait rire tous les enfants.
Mais alors, les conséquences de votre propos, de vos propos, seraient finalement assez importantes, puisque finalement, vous êtes en train de remettre en cause la laïcité à la française, vous êtes en train de remettre en cause la manière dont on compose aujourd'hui avec les signes religieux. Est-ce qu'il faudrait, selon vous, par exemple, autoriser le voile intégral en France?
Ah non, parce que le voile intégral n'est pas une obligation religieuse, hein, bien entendu. Et puis d'autre part, comme ça a été fait avec l'Église catholique, il y a des négociations à faire. La loi de 1905 n'est pas une loi sur la liberté de croyance. Elle est une loi sur la liberté de la pratique religieuse dans l'espace public, ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Et c'est donc forcément une loi de compromis. Les groupes, les communautés de foi ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent dans l'espace public. Donc il y a à négocier. Alors avec l'Église catholique, ça s'est fait, ça s'est souvent fait dans la douleur. On a quand même envoyé l'armée expulser les femmes voilées de l'époque, c'est-à-dire les bonnes sœurs des établissements scolaires. Bon. Aujourd'hui, heureusement, on est plus courtois. Mais avec l'Église, on a trouvé un compromis. Et maintenant, bon, on est en train de le trouver avec l'islam, parce que les choses évoluent, les choses bougent. Alors par exemple, il ne faut surtout pas interdire le voile à l'université. C'est à la fois une attaque contre les droits humains, et puis c'est tout simplement absurde.
Est-ce que vous considérez que toute action qui aurait été faite contre ces signes religieux, par exemple récemment contre le burkini, aurait tendance à durcir le dur? Parce que ce que vous dites finalement, Olivier Roy, dans votre analyse donc de ces djihadistes, c'est qu'il y a un point commun entre eux, ça n'est pas leur oppression sociale, puisque vous montrez assez bien que finalement on ne les recrute pas parmi des opprimés, mais que finalement ils sont en quelque sorte les porte-parole de ceux qu'ils estiment être opprimés. Et que finalement, ce qui les fait se mouvoir, c'est la réponse à une humiliation, un manque de reconnaissance, que celui-ci soit réel ou fantasmé.
Oui, c'est exactement ça la motivation qu'ils donnent à leur révolte. Alors, le burkini est un cas très intéressant, parce qu'en soi, le burkini n'est pas un signe religieux. Les salafis, si on leur dit que le burkini est une tenue religieuse, ils sautent au plafond. Le burkini, c'est quoi ? C'est une tentative de compromis par des individus. C'est pas, il n'y a pas de mouvement secret derrière, il n'y a pas les frères musulmans derrière. C'est des femmes qui essaient de trouver un compromis entre ce qu'elles estiment être un comportement lié à la religion, qui est la pudeur, tout simplement, et puis une pratique sociale, tout ce qu'il y a de plus moderne, qui est d'aller sur la plage en famille. Si elles étaient des hyper-croyantes, elles n'iraient pas sur la plage, parce que c'est plein d'hommes dénudés, et donc c'est pas bien. Je vous trouverai pas une femme salafiste sur la plage. Alors, les compromis de type burkini sont boiteux, parfois un peu ridicules, disons-le, mais un, c'est la liberté individuelle, et deux, surtout, ça donne l'impression, si on l'expulse, qu'on ne veut plus voir un signe religieux dans l'espace, supposé religieux dans l'espace public. Et dès qu'on interdit un signe musulman, on interdit tous les autres signes, bien entendu. Le combat contre le voile a éliminé la kippa et la soutane, bon. Le combat contre le halal va éliminer le kasher. Donc c'est derrière cette question de l'islam, qui a ses caractéristiques et ses problèmes propres, il y a, encore une fois, cette question de la place du religieux dans notre société.
Alors, mettons donc pour la place du religieux, qui selon vous n'est pas correcte aujourd'hui, on voit néanmoins qu'il y a une attitude conquérante de l'islam. Alors, c'est une attitude conquérante dans l'espace public, ce qui pose des problèmes à la laïcité. C'est une attitude conquérante, d'où la présence de ces convertis. Et vous dites, Olivier Roy, qu'il y a une surreprésentation de convertis à l'islam parmi ceux qui décident donc de se donner la mort au travers du djihad. Comment explique-t-on cela ?
Pour les convertis, moi j'explique ça parce que le djihad, en particulier sous la formule Daesh, c'est la seule chose qui est sur le marché aujourd'hui. Si vous voulez inscrire votre révolte dans un univers, disons, globalisé, avec une transcendance, avec un, disons, donner un sens à votre vie et surtout un sens à votre mort, eh bien, il n'y a que le djihad de Daesh sur le marché. L'extrême-gauche, encore une fois, elle s'est complètement provincialisée. On va défendre...
L'extrême-droite ne s'est pas provincialisée.
L'extrême droite n'est pas universaliste. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de grandes idéologies universalistes à part l'islam. L'extrême gauche comme l'extrême droite se sont territorialisées, hein, et n'offrent plus d'alternatives. L'extrême gauche est devenue anti-globalisation. Alors qu'il y a 40 ans, avec l'idée de la révolution mondiale, c'était le prototype même de la globalisation. Donc quand vous êtes, un, dans un espace qui est vous-même globalisé, et deux, que vous cherchez cette image du super-héros négatif, bien sûr, mais qui fera peur à toute la société, et que vous cherchez, encore une fois, un sens à votre vie, et surtout à votre mort, c'est Daesh.
Mais alors, lorsque vous avez formulé pour la première fois cette expression donc d'islamisation de la radicalité, on a considéré que c'était quelque chose de rassurant, puisque ça signifiait que le problème, c'était la radicalité. Lorsqu'on vous entend aujourd'hui, on se dit finalement que votre discours est désespérant, parce que comme nous n'avons pas de radicalité de substitution, cela signifie que ces djihadistes, ils ne sont pas prêts finalement de disparaître, qu'on en finisse avec Daesh ou pas, Olivier Roy.
Oui, on aura un réservoir de radicalisation qui va continuer, qui va être là. Quelle forme il prendra après Daesh ? On aura des mutations. Et puis, ça fait 20 ans que ça dure. Or, si c'est bien un phénomène de type générationnel, il y a un moment donné, on va avoir, comme pour Action Directe, ou une mutation, avec évidemment des traînées, des queues de comète, hein, qui vont continuer. Mais je dirais, il ne faut pas se concentrer sur la question des individus qui se radicalisent. Ça, on en aura tout le temps. Il faut se concentrer sur l'impact social et politique de la radicalisation.
Alors ça, c'est effectivement un facteur important, mais si vous me permettez néanmoins de rester encore un instant là-dessus, si l'on suit votre thèse, on a affaire à des individus qui sont des millénaristes, autrement dit des individus qui cherchent à hâter l'apocalypse et qui en quelque sorte le précèdent eux-mêmes en se donnant la mort. Si on a affaire à des millénaristes, cela signifie qu'on a un vrai changement de nature par rapport à des mouvements, on va dire, d'action directe à Al-Qaïda, avec lesquels on pouvait parler politique. Aujourd'hui, avec des millénaristes, on ne peut parler que métaphysique. Et d'ailleurs, vous niez le fait même que ces gens-là aient, en quelque sorte, envie de créer un État. Ils ne veulent rien créer de tel, selon vous.
Le modèle Daesh est un modèle qui ne peut pas tenir. On le voit d'ailleurs avec ce qui se passe, puisque c'est un califat qui sera en perpétuelle expansion. Dès qu'il s'arrête et dès qu'il recule, ils ont perdu. Bon. Et en perpétuelle expansion à partir de Damas, ça veut dire commencer à se débarrasser d'Israël, puis avaler l'Égypte, puis la Libye. Bon, ça, ça sera pas un problème. Mais on leur souhaite bonne chance quand ils arriveront au détroit de Gibraltar. Donc, Daesh est un immense fantasme. Il n'y a pas de stratégie de Daesh. Daesh n'est pas en train de mobiliser les masses musulmanes en Europe pour servir de cinquième colonne, ça. Ils font feu de tout bois, parce qu'ils pensent que la société occidentale est complètement corrompue, et apparemment ils ne sont pas les seuls, et qu'elle va s'écrouler si on tape en plein dedans. Bon. Donc ils sont bien dans un discours apocalyptique. Ils ne sont pas dans un discours de construction d'une société. Et la preuve d'ailleurs, c'est que ces jeunes, quand ils vont en Syrie, ils ne participent pas du tout à l'édification d'une société islamique. Ils vont au front, ils se font sauter.
Mais alors ça, c'est vrai en Syrie, mais en Irak, vous avez parmi Daesh des soldats qui étaient jadis des soldats de Saddam Hussein, qui n'étaient pas du tout apocalyptiques, qui n'ont absolument aucune envie de mourir pour qui que ce soit, qui sont attirés par une solde, qui sont des mercenaires. Qu'est-ce que vous faites de ces gens-là? Parce que lorsqu'on vous lit, Olivier Roy, on se dit finalement que vous ne traitez que de l'aspect métaphysique des choses, alors qu'il y a bien une dimension politique, sociale là-dedans.
Oui, il y a une dimension politique régionale, c'est évident. Les anciens bassistes ont un projet qui est assez cohérent d'ailleurs, qui serait de créer un espace arabe sunnite, puisque maintenant les Kurdes ont leur espace, les chiites ont leur espace, Damas est sanctuarisé du côté des Alaouis par les Russes, etc. Donc pourquoi pas? Si les anciens de Saddam Hussein arrivaient sur la table de négociation avec un projet de créer, disons, une région autonome arabe sunnite dans la région, les Occidentaux seraient prêts à discuter, parce que ça, c'est du négociable. On parlerait en termes d'État, de frontières, de négociations. Le problème, c'est qu'ils se sont donnés, si je peux dire, à une organisation qui, elle, se désintéresse complètement de l'idée même de frontières, de l'idée même d'État stable.
Mais alors, pourrait-il la renverser dans ce cas-là, cette organisation?
Alors, c'est le moment de vérité, là, en ce moment. Ou bien, il va y avoir une espèce de révolte chez les Arabes sunnites locaux, qui veulent pas crever avec Daesh, ou bien ils vont crever avec Daesh.
Et vous, est-ce que vous avez là-dessus, non pas une prévision, mais quels sont les scénarios qui vous semblent plausibles? Parce qu'on voit que la victoire militaire, elle est, disons, à portée de main. Et vous l'avez dit tout à l'heure au sujet de Mossoul, on a quand même affaire à un petit nombre d'individus. Ces individus n'ont pas d'aviation. Ils ont un armement qui, finalement, est évidemment très peu comparable à l'armement des alliés. Bref, qu'est-ce que l'on va faire d'eux? Est-ce qu'il est possible de revenir sur le terrain de la politique, autrement dit, sur le terrain de la négociation et de l'acceptable, ou en tout cas du négociable?
C'est ce qu'il faudrait faire. Mais j'ai des doutes, parce que chaque acteur régional, les Turcs, les Kurdes, les chiites, les Iraniens, les Saoudiens, etc., a son propre agenda. Et ils ont tous un ennemi qui est au-dessus de Daesh. Donc, au moment où on prend Mossoul, chacun regarde par-dessus son épaule pour voir ce que l'autre va faire. Et le grave danger, ça serait justement que les vainqueurs de Mossoul se battent entre eux aussitôt qu'ils ont pris Mossoul. Ça, c'est le plus grave danger. Alors, on peut espérer, mais ça, c'est un vœu un peu pieux, qu'ils ont fait un accord sous l'égide des Américains pour gérer Mossoul, parce que c'est quand même 1 million d'habitants, Mossoul. Pour gérer Mossoul et pour donner, disons, un espoir d'avenir aux populations arabes sunnites de la région. Refaire ce que le général Petraeus avait fait avec le Surge et convaincre les dirigeants locaux, vraiment ceux qui habitent là-bas, de faire un accord politique et de se débarrasser des djihadistes internationaux. Mais j'ai des doutes.
Vous avez des doutes précisément parce que c'est particulièrement compliqué. On l'a vu alors par exemple en Libye, où pour libérer la ville de Sirte de 2000 djihadistes, on a mis des moyens qui étaient des moyens extrêmement importants. Ces moyens ont suffi, mais c'était juste. Ce qui signifie que, peut-être contrairement à votre thèse, Olivier Roy, il y a quand même un soutien populaire véritable qui ne peut pas se réduire à un soutien d'une thèse apocalyptique, puisqu'on sait bien que les mouvements millénaristes ont toujours été le fait quand même d'un petit nombre d'individus au travers de l'histoire.
Ah, mais les habitants locaux ne sont pas dans l'apocalypse. Ils veulent vivre. Hein. Mais de même que les habitants de la Seine-Saint-Denis, hein, ils veulent vivre aussi. Ce sont les djihadistes qui sont dans une perspective apocalyptique. Et le problème, c'est qu'ils entraînent les autres. Non pas parce que les autres sont convaincus, mais parce que les autres n'arrivent pas à trouver, disons, une expression politique acceptable par tous les autres acteurs de la région pour tout simplement leur droit d'exister là où ils habitent.
Quelle est la part de responsabilité de l'Occident dans cette situation? Parce que pour l'Irak, on sait quel enchaînement est depuis le début des années 2000. Pensez-vous aujourd'hui qu'il y ait en quelque sorte également besoin d'un examen de conscience de la part de l'Occident par rapport à la situation et à la politique menée au Proche-Orient, Olivier Roy.
Les erreurs ont été faites en 2003. Bon, l'invasion de l'Irak a été une catastrophe, enfin une stupidité politique extraordinaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? La réponse d'Obama est de dire on ne fait rien, parce qu'on ne veut surtout pas refaire 2003. Mais faire le contraire de ce qu'on d'une erreur n'est pas forcément quelque chose de positif. Le contraire d'une erreur peut être une autre erreur. Et j'avoue que je ne sais pas trop ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Et je pense qu'il ne faut pas envoyer de troupes au sol, ça me paraît évident.
Et en matière de politique intérieure, puisque finalement, vous rappelez que le terrorisme, aussi meurtrier, aussi sanglant soit-il en France ou dans le monde, Olivier Roy, n'est pas une menace stratégique existentielle, comme l'a dit d'ailleurs le président Obama. Et en revanche, il est une menace pour le corps social, et on voit bien aujourd'hui les conséquences, la place qu'occupe le terrorisme dans la conversation nationale et les programmes politiques. Qu'est-ce que vous préconisez ? On a entendu Nicolas Sarkozy tout à l'heure évoquer cette question-là. Qu'est-ce que vous préconisez pour que ce terrorisme n'atteigne pas ses buts sociaux ?
Jouer les gagnants, si je peux dire, c'est-à-dire les classes moyennes en ascension sociale issues des populations musulmanes. Ceux-là sont complètement ignorés. Voilà, on s'interroge avec de bonnes raisons sur les petits jeunes qui se radicalisent, mais on oublie complètement les ingénieurs, les avocats, les médecins, les professeurs d'origine musulmane, qui eux ne souhaitent pas d'ailleurs qu'on braque les projecteurs sur eux, mais qui ont trouvé les moyens d'être à la fois français et pour une partie d'entre eux, pas tous, mais croyants et pratiquants. Donc il faut maintenant voir ça sous l'angle social, mais pas au sens misérabiliste du terme social, au sens de qu'est-ce qui de ces classes moyennes qui sont en crise. D'ailleurs, comme on le sait, les problèmes politiques de la France aujourd'hui, c'est la crise des classes moyennes.
On parle beaucoup de cellules de déradicalisation. Placez-vous des espoirs dans ces organismes ? Est-ce qu'il est possible, selon vous, de faire redescendre ces jeunes ?
Bah écoutez, si quelqu'un vient voir un médecin lui disant j'ai besoin d'être déradicalisé, c'est qu'il est déradicalisé. Bon, les vrais durs, ils demandent pas à être déradicalisés, ils sont dans la vérité, etc. Donc pour moi, sauf pour des très jeunes, hein, 12, 13, 14 ans, d'accord, ça peut jouer. Mais quelqu'un de 18 ans qui a choisi le djihad, il a fait un choix qui est finalement un choix politique et c'est son choix.
Et contre la politique, qu'est-ce qu'on peut faire, puisque on a malgré tout une expérience avec les autres organisation terroriste, Olivier Roy.
Là, il y a tout un problème de la réintégration des terroristes, qu'on voit bien avec les anciens d'extrême-gauche, qui ont fait certainement moins de dégâts, mais enfin, les Brigades Rouges en Italie, Et alors, le problème du retourné, ou du repenti, ou de ce qu'on veut, qui est très bien dit par Jean-Marc Rouillant, c'est s'il s'excuse, par exemple, s'il demande pardon, etc., leur vie ne fait pas de sens. Donc, le problème de ces gars-là, une fois qu'ils ont survécu, c'est justement de donner un sens à tout leur passé, qui est un passé absolument catastrophique. Et donc, ils n'arrivent pas vraiment à exprimer en termes politiques leur échec.
Le djihad et la mort, c'est votre livre, Olivier Roy, où vous proposez donc votre conception de ce chemin de radicalisation. Merci d'avoir été avec nous. Il est 8h43 sur France Culture.